Les séminaires du Collège de France.
Bien, donc je présente en quelques mots Cathy. Cathy Clairbeau a fait ses études en Belgique jusqu'à une thèse à l'Université libre de Bruxelles qu'elle a soutenue en 1993. Et en fait, très rapidement, après un court postdoc, elle est rentrée au CNRS en 1984. Et elle est maintenant directeur de recherche de classe exceptionnelle. Mais en fait, Cathy partage sa vie professionnelle entre pas mal d'endroits, donc le CNRS, bien sûr, en fait, juste à côté d'ici. D'autre part, l'Université libre de Bruxelles, et où elle est professeure invitée. Et aussi au National Center for Atmospheric Research, qui est un centre de recherche aux États-Unis, à Boulder, dans le Colorado. Et Cathy est chercheure affiliée dans cet institut. Donc, sa thématique de recherche concerne l'observation spatiale de l'atmosphère par spectroscopie infrarouge. Je pense qu'elle va nous dire en quelques mots qu'est-ce que ça veut dire, la spectroscopie infrarouge. Aussi bien pour regarder les gaz traces dans l'atmosphère, les gaz traces dont j'ai parlé un petit peu là, dans mon cours de la semaine dernière, et aussi pour observer les aérosols dont j'ai parlé aujourd'hui. Donc ces travaux ont conduit à 250 ou même plus de 250 publications dans des revues scientifiques, donc c'est vraiment énorme. Et l'excellence de ces travaux a été reconnue par tout un tas une série de prix et de distinctions. Je ne vais pas toutes les citer, ça serait trop long, on n'a pas que ça à faire. Mais je cite quand même le Grand Prix Gérard Mégy de l'Académie des sciences, la médaille d'argent du CNRS, il y en a qu'une par an, hein, qui est donnée enfin, dans nos sections. Et puis, Cathy est aussi chevalier de la Légion d'honneur. Mais aussi, en fait, Cathy Clairbeau est aussi reconnue pour ses capacités pédagogiques, ses compétences pédagogiques. Et c'est pourquoi j'ai le plaisir de la recevoir dans le cadre de la chaire Avenir commun durable. Cathy, à toi.
Merci à toi pour l'introduction. Bon, c'est toujours sympa quand on se lève, qu'il fait froid et tout, d'entendre ces trucs-là et de se dire tout compte fait, ça va, je fais bien mon job. Merci à vous d'être là. C'est ce que je préfère faire, en fait, d'essayer de partager ce que je sais. Et j'aime particulièrement bien ce genre d'audience. Mais parce qu'il n'y a pas votre téléphone portable qui sonne toutes les 10 minutes, vous êtes tous là bien à l'heure et tout, donc c'est vraiment chouette. Donc je vais essayer de vous illustrer ici en une heure ce qu'on peut voir et comprendre sur la pollution, et vous allez voir que j'ai un gros biais satellite parce que c'est ce que je connais et c'est ce que mon équipe fait, en fait, surveiller l'état de la planète depuis l'espace. Et ici, je vais faire un zoom en particulier sur ce qu'on voit pour la pollution depuis les satellites. Je vais faire une petite introduction avant ça. Et donc, d'abord, ce dont je ne vais pas vous parler, c'est la pollution dans les mers. Moi, je ne connais rien, donc je ne vais surtout pas vous parler. La pollution des sols, non plus. Et ce dont je vais essayer de vous parler, c'est la pollution, la qualité de l'air. Donc, quels sont les polluants qu'on retrouve dans l'atmosphère et comment on peut les surveiller ? Alors, pourquoi on s'intéresse à cette problématique ? Parce que ça, vous savez tous, je pense, ça a un impact sur la santé des humains, l'état des bâtiments, l'état de la faune et la flore. Et quand on tâche de classer les différentes causes, les différentes raisons, les différents phénomènes qui ont un impact sur la santé, on voit que la pollution, et en particulier celle qui concerne les particules fines, dont vous venez d'avoir tout un cours sur les particules, c'est considéré comme la raison numéro un. Alors, on va dire à l'échelle globale, c'est pas partout vrai, et on va voir ça un peu comment ça se répartit autour de la Terre, mais c'est considéré comme une cause importante de mortalité. Et pourquoi ? Parce que ça affecte le système cardiovasculaire, ça, c'est aussi des facteurs déclenchants ou qui s'additionnent à d'autres facteurs pour les cancers, etc. Comment on sait ça ? Bien, on regarde les jours où il y a de la pollution. On voit qu'il y a beaucoup de plus d'admissions dans les hôpitaux, en particulier les personnes plus sensibles, les personnes âgées, malades ou les jeunes enfants. Et donc, si on compare ça à d'autres causes, là, vous avez des petites statistiques. Alors, c'est très mal réparti à l'échelle du globe. Je vous montre un exemple, en fait, de la répartition de différents... Alors, ça peut être différents facteurs liés à la pollution. Là, je n'ai pas encore cité des molécules, mais ça, vous allez voir que ça va être beaucoup les particules. Et comme vous voyez, l'Asie est le premier continent concerné. Je vais vous montrer beaucoup d'illustrations. Vous allez voir la Chine et l'Inde qui ressortent tout à fait en rouge, parce qu'on utilise souvent le rouge pour dire attention, c'est là qu'on a les maximums de concentration. Dans une certaine mesure, l'Afrique aussi est très concernée. On va dire que ça, c'est aussi les aérosols de provenance naturelle, type les tempêtes de sable, etc. Et alors, on va essayer de détailler, en fait, quels polluants affectent quelle région du monde. Je vais faire un focus, on va dire, plus sur l'Asie et plus ici sur la France pour savoir à quoi il faut s'inquiéter et quelles mesures on prend pour essayer de faire baisser cette pollution. Alors, j'ai divisé mon exposé en plusieurs chapitres. D'abord, une petite introduction qui va essayer de vous rappeler quelles sont les pollutions de l'air, de quoi on parle, de quel gaz ou quelles particules, quelles sont les sources de ces polluants, d'où ils viennent et comment ça évolue dans le temps. Et puis après, je rentrerai plus dans ce que je connais mieux moi, donc comment est-ce qu'on les surveille. Et vous allez voir que la plupart de mes illustrations, ce sont des images satellites. Et on va, voilà, j'ai choisi 5 exemples différents, beaucoup de choses très visuelles. Je vais essayer de vous montrer un aperçu de nos travaux de recherche et de ce qu'on connaît. Alors juste un rappel que vous avez peut-être déjà eu, donc la composition de l'air, c'est essentiellement de l'azote, de l'oxygène et de l'argon. Et donc ici, ce dont on va parler, c'est le 0,1% de composition de l'air qui reste, c'est-à-dire tous les gaz à effet de serre sont dans ce 0,1%, donc la vapeur d'eau, le CO2, le méthane, le N2O, etc., et les polluants, dont je vais parler cette fois-ci. Et vous allez voir que parmi ceux qu'on va beaucoup citer, il y a le NO2, le SO2, le CO, etc. Et donc on va rentrer un peu dans le détail de chacun des gaz et comment est-ce qu'on les mesure. Alors ici, quand on parle de pollution, c'est vraiment la pollution qui peut être soit à l'échelle locale, donc les sources peuvent être très proche de là où on vit, soit ça peut être de la pollution transportée, mais vous allez voir que contrairement aux gaz à effet de serre qui restent très très longtemps dans l'atmosphère et qui peuvent faire le tour de la Terre, ici les polluants c'est plutôt à l'échelle des villes ou des grandes zones urbaines. Et donc on va un peu voir ça dans le détail. Ici typiquement ce sont les pollutions dont on va parler dans cet exposé ici, le monoxyde de carbone, le SO2, je vais vous montrer d'où ils viennent, hein, l'ammoniac, les PM2.5, alors je n'étais pas là à la leçon, donc 2.5, ça veut dire 2.5 microns de taille, et plus les particules sont petites, plus elles rentrent profondément dans les poumons, et donc plus elles sont impactantes sur la santé. Donc il y a particules de PM2.5, PM10, ça c'est des particules un peu plus grosses. Les composés organiques volatiles dont on parle un tout petit peu, et le NO2. Donc ça c'est la liste de tous les gaz qu'on considère comme des polluants. À certains endroits, ils peuvent être tous présents en même temps. À certains endroits, c'est saisonnier. On va voir que plutôt en hiver, les polluants qui nous concernent, c'est plutôt le NO2 et les particules. Au printemps et en été, quand il fait beau et qu'il y a du soleil, c'est plutôt l'ozone, dont je n'ai pas encore parlé ici. Les polluants qui sont listés ici, c'est ce qu'on appelle les polluants primaires, c'est-à-dire ceux qui sont émis au niveau du sol et qui s'élèvent dans l'atmosphère ensuite. On a aussi des polluants secondaires qui sont générés, alors soit par réaction chimique, c'est le cas par exemple ici sur mon illustration de l'ozone, O3, dont vous avez assisté au séminaire de Sophie Godin-McMahon, mais elle a surtout parlé d'ozone stratosphérique. Je pense que l'ozone, c'est aussi un polluant qui a un impact sur la santé. Et donc lui, il est généré à partir de réactions chimiques et il y a besoin de soleil. Donc c'est pour ça que c'est surtout au printemps et en été qu'on va trouver la pollution en ozone. Et les particules sont aussi des polluants qu'on considère comme secondaires. Il y a les émissions primaires, mais ça s'additionne à des émissions secondaires qui viennent aussi de différentes réactions chimiques qui vont produire des nitrates, des sulfates, etc. Et donc, en particulier, je vais donner un exemple avec l'ammoniac, qui est un composé qui est lié notamment à l'utilisation intense de fertilisants. Donc, ça peut être soit l'épandage de fertilisants sur les champs, soit l'élevage intensif de bétail. On va voir que ça génère de l'ammoniac et cet ammoniac va se transformer en particules. Typiquement, les épisodes de pollution qu'on a souvent à Paris au printemps, c'est lié au fait qu'il y a à ce moment-là des épandages. On sort de l'hiver et il y a en plus des épandages d'ammoniac. Donc ça vient se rajouter au trafic automobile, au chauffage, etc., qui sont des sources de polluants. Ici, on a les petits histogrammes des différentes sources de polluants, mais on va voir un peu dans le détail qui émet quoi et où. Alors ici, j'ai une carte qui vous montre Alors c'est assez rudimentaire parce qu'on a utilisé un code couleur qui montre les différentes catégories et les sources de différents polluants. Et bien sûr, à certains endroits, typiquement en Asie, il y a différentes sources qui s'additionnent. Et donc, c'est toujours difficile d'essayer d'évaluer quel polluant a quel impact sur la santé, parce qu'il y a des endroits où c'est tous les polluants en même temps. Et donc, typiquement, ben, chez nous, la principale source de pollution occasionnelle, ça va être lié justement à l'agriculture, ce dont je viens de vous citer, parce que ça se rajoute en fait ponctuellement à un fond de particules qui est présent tout le temps. J'ai parlé de toutes les régions désertiques, c'est beaucoup le sable en fait qui va avoir un impact. Ça additionne à ça toutes les activités anthropiques qui se rajoutent à ces phénomènes naturels. Et on va détailler un peu, je vais vous montrer vraiment des exemples de comment la combustion des fuels fossiles, en fait, en particulier, va générer beaucoup de particules et comment ces particules vont se déplacer autour du globe et affecter d'autres pays que les endroits où ils sont émis. Alors, si on regarde un peu ce qui se passe ici, à Paris ou en Île-de-France, les principales sources de polluants, elles sont citées ici. Il y a tout ce qui est résidentiel, ça va être essentiellement et beaucoup en hiver le chauffage. Il y a tout ce qui est transport, que ce soit les voitures, les avions, les bateaux, les camions, etc. Et puis toutes les autres activités, les industries, tout ce qui est produit de l'énergie, etc. Les chantiers, l'agriculture, j'ai déjà cité. Et si on essaie de voir quels sont les polluants qui concernent particulièrement Paris et l'Île-de-France, eh bien ça va être beaucoup le NO2 et les particules. Ce sont les deux pour lesquels, avec les réglementations européennes, on dépasse de temps en temps les normes de pollution. Et à surveiller aussi l'ammoniac, je vais vous montrer pourquoi. C'est un de ceux qu'on a du mal en fait à cadrer pour l'instant. Et alors j'ai été chercher, il y a le site Air Paris qui est très bien fait et qui va vous montrer tous les jours, vous pouvez regarder les prévisions, en fait, les cartes de pollution. Et il montre aussi quel type de polluant va intervenir en fonction de la zone géographique. Vous pouvez rentrer carrément votre adresse, etc. Et donc ici, par exemple, pour le NO2, donc ça, je viens d'aller chercher la petite statistique. Le NO2, c'est essentiellement le transport, donc le trafic automobile, qui va impacter sur les concentrations de NO2 à Paris et en Île-de-France. Et vous voyez que si on sort de Paris, il y a d'autres facteurs qui se rajoutent, notamment l'agriculture, les industries, etc., qui se rajoutent à cette petite statistique. Alors, si on regarde les particules, par contre, ici aussi, on a une somme de différentes causes, de différentes sources d'émissions qui vont expliquer les concentrations en particules qu'on mesure au-dessus de Paris et en Île-de-France. Et ici, vous voyez que c'est surtout en fait le secteur domestique résidentiel qui va jouer, secteur tertiaire aussi, et essentiellement ici en hiver, ça va être le chauffage qui va jouer et contribuer. Ça peut être aussi les feux de bois. Il y a 10-20 ans de ça, c'était plus le trafic automobile. Maintenant, par exemple, à l'intérieur de Paris, les feux de bois jouent un rôle important dans l'identification d'où viennent les différentes sources de particules. Et alors, ici, l'ammoniac, dont je vais citer, c'est beaucoup l'élevage intensif de bétail et l'utilisation d'engrais. Et vous voyez qu'ici, à Paris, quasi pas, parce qu'on a beaucoup de champs dans Paris, mais en dehors de Paris, une contribution importante qui vient de ces deux facteurs. Et je vous ai montré ça il y a trois slides, l'ammoniac va finir par se transformer en particules. Et donc, vous voyez qu'en Île-de-France, la contribution de l'agriculture sur les particules est importante aussi. Alors, je suis sûre que vous avez tous... je ne vais pas demander de lever les bras, mais je suis sûre que vous avez tous l'idée que la pollution n'arrête pas d'augmenter. Puisqu'on en parle énormément. Et en fait, on en parle beaucoup parce qu'on connaît de mieux en mieux son impact sur la santé. Et figurez-vous que dans plein d'endroits sur Terre, la pollution est en train de baisser. Ici, vous avez la statistique au-dessus de la France, par un organisme qui surveille ça très bien, que ça ne va le citer pas. Et vous voyez que la plupart des polluants, notamment très notoirement le SO2, diminue. Alors pourquoi ça diminue? Parce qu'avant, on se chauffait au charbon. Le charbon, la combustion du charbon émet énormément de SO2, il y a d'autres facteurs, il y a les industries, etc. Mais vous voyez que lui, il est carrément en train de s'écrouler. Ce n'est pas vrai partout autour du monde, on va montrer des exemples après, mais en tout cas en France, le SO2, ce n'est plus un problème depuis un moment. D'autres polluants, comme les particules, sont en train de baisser. Ben, ça, c'est les réglementations européennes qui ont été mises en œuvre pour limiter, par exemple, les anciens moteurs de voitures, etc. Il y a le shift vers les véhicules électriques, etc., qui joue un rôle aussi. Alors, celui qui ne diminue pas beaucoup, c'est l'ozone, par contre. Et je vous ai expliqué, c'est un polluant secondaire. Donc, on a un peu de mal à contrôler les émissions d'ozone. On ne comprend pas toujours bien, en fait, pourquoi il ne diminue pas, alors que certaines des sources, par exemple, le NO2, qui est ici en vert, diminue aussi. Ben, là aussi, c'est les efforts qui sont faits par l'industrie automobile. Donc l'ozone ne diminue pas tellement et l'ammoniac ne diminue pas tellement non plus. Bah, toujours dans la... Ici, vous avez les différentes sources. Ici, c'est pour les PM2.5. Et vous voyez, en 2005, 2010, 2015, jusqu'à il y a 2-3 ans. Les statistiques, elles mettent toujours un peu de temps à arriver. Hein, donc, c'est toujours décalé. Si vous cherchez les graphiques les plus récents, c'est toujours décalé 2 ans en arrière. Et vous voyez que tous les secteurs, ou presque, font des efforts, justement, sous les contraintes de l'Europe et d'essayer de limiter les émissions de fioul fossile. Hein, c'est aussi, une chose qui vient avec le fait que, vous savez, l'accord de Paris qui essaie de restreindre les émissions des gaz à effet de serre, etc., en fait, toutes ces combustions de fioul fossile vont générer aussi des polluants et donc on bénéficie avec les efforts qui sont faits de cette diminution. Alors, si on dézoome un petit peu et qu'on regarde ce qui se passe au niveau européen, on dépasse toujours, dans certains cas, les seuils. Hein, donc, ici, vous avez ce que je vous disais, les trois types de polluants pour lesquels on dépasse encore les seuils de temps en temps, ce sont les particules, le NO2 et l'ozone, en France en tout cas. Dans d'autres régions qui sont avec des densités de population élevées, c'est par exemple NO2, Pays-Bas, Belgique, etc. Et vous avez pour chaque pays, en fait, les endroits où les seuils sont dépassés. Si on dézoome encore et qu'on va en Chine ou en Afrique, il y a d'autres polluants qui se rajoutent, comme le SO2, le monoxyde de carbone, etc. Mais dans nos pays, en fait, ceux-là ne sont plus vraiment un problème. Et vous avez ici une petite représentation graphique de quel secteur, en fait, est plus ou moins parvenu à stabiliser ses émissions de polluants et quel continue d'augmenter. Alors, peut-être vous vous rappelez ou vous avez entendu parler des épisodes de pollution dans le passé qui ont eu un impact important sur la santé, et celui qu'on cite le plus souvent pour illustrer ça, c'est le grand smog qui a eu lieu à Londres en 1952. Si vous avez regardé la série, par exemple, The Crown, dedans, il y a tout un épisode qui commence autour de ça. Ça a été vraiment impactant, et c'est vraiment là qu'on a pris conscience de l'impact sur la santé, étant donné qu'il y a eu un paquet de gens qui sont, soit qui ont été malades, soit qui sont décédés, liés à cet événement, et on a vraiment fait le lien entre la qualité de l'air, la concentration de polluants dans l'air et l'impact sur la santé. Et donc, ça, si on remonte même vraiment très loin dans le passé, on se demande parfois, alors je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais l'histoire est jolie, de savoir si les peintures dans le passé, à l'époque, on est déjà là, la révolution industrielle est bien entamée, et donc de savoir si ces peintures-là, ici, c'est le pont qui enjambe, en fait, c'est le pont de Waterloo qui enjambe la Tamise à Londres, et on se demande si ces jolies peintures de Monet, ce n'est pas une conséquence de la présence de pollution, et avec l'interaction avec le rayonnement solaire, on a la diffraction de la lumière, et donc on voit des jolies couleurs. Et donc voilà, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais c'est joli comme illustration. Alors je vous disais que partout dans le monde, il y a d'autres polluants qui s'additionnent, et donc par exemple le SO2, lui aussi, il diminue à l'échelle globale, mais on va voir qu'en Asie, il est toujours très présent. Vous avez là, en fonction du temps, depuis la révolution industrielle jusque maintenant, en fait, la mesure des émissions de SO2 à différents endroits, et le code couleur vous donne les différents continents. Et vous voyez qu'en Asie, il y a encore des émissions très importantes de SO2. Mais c'est lié notamment au fait qu'ils utilisent encore le charbon. Et alors, j'y reviendrai tout à la fin de mon exposé. La Chine a mis en place différentes réglementations, notamment un protocole qui s'appelle le Clean Air Act, déjà il y a une dizaine d'années, et on commence à voir très nettement, en fait, les conséquences du fait qu'il y a des efforts pour limiter les émissions de polluants, et l'Inde est en train de rattraper la Chine sur différents polluants, et on va voir que moi, ça fait une vingtaine d'années que j'ai des cartes satellites pour surveiller, et il y a 20 ans c'était plutôt la Chine qui ressortait rouge, parce que je vous dis, on utilise des échelles pour montrer rouge, c'est les concentrations les plus abondantes. Et maintenant, c'est plutôt l'Inde qui sort toujours en premier quand on surveille certains polluants. Alors ça, c'était mon introduction. Et je vais passer maintenant, je vais plonger dans ce qu'on fait comme chercheur et ce qu'on analyse au jour le jour pour essayer de suivre justement les déplacements de ces polluants, où est-ce qu'il y a des sources plus importantes, comment est-ce qu'on les surveille quotidiennement. Et donc ici, j'ai une petite animation qui vous montre l'instrument sur lequel je travaille. Il s'appelle IASI, c'est un cube de 1 mètre sur 1 mètre sur 1 mètre, 100 kilos. Et il est à bord de deux plateformes satellites. Il y en a deux qui volent pour l'instant. Ils s'appellent METOP A et METOP B. C'est des satellites météorologiques. Et l'instrument est tout au bord de la plateforme, tout au bout ici. Et ce qu'il fait, c'est qu'il surveille la radiation infrarouge qui est émise par la Terre et qui va traverser l'atmosphère. Donc on en avait un premier qui a volé à partir de 2006. Celui-là ne fonctionne plus. Il est toujours là-haut, mais il ne fonctionne plus. Un deuxième qui a été lancé en 2012, un troisième qui a été lancé en 2018. Et donc le numéro 2 et le numéro 3 fournissent chaque jour environ 1,2 million d'observations. Donc vous imaginez bien qu'on ne les regarde pas à la main. On est équipé pour un traitement automatique. Et il y a toute une équipe qui travaille là-dessus. Avec moi, il y a 25 personnes qui travaillent sur ça pour essayer justement de dériver des informations intéressantes. Et qu'est-ce qui est intéressant ici, c'est qu'en traversant l'atmosphère, la radiation infrarouge, elle est absorbée par les gaz qui composent l'atmosphère, qui ont des propriétés spectroscopiques, elle tourne, elle vibre. Et donc chaque molécule a vraiment une empreinte qui est caractéristique, que vous voyez ici sur cette image. Ça, c'est une observation IASI, et on voit en fait les absorptions de différents gaz. Je vais revenir à ce diagramme en fait après. Je vais l'utiliser encore tout à l'heure. Et donc ça, c'est une partie de l'équipe qui travaille avec moi ici au LATMOS. Donc je suis basée à l'Université de Jussieu. Et la plupart des images que je vais vous montrer, ce n'est pas moi qui les ai faites, c'est eux. Alors j'ai choisi de structurer mon exposé en donnant 5 exemples. Le premier exemple, c'est le monoxyde de carbone, donc qui permet de faire un suivi des feux. Et donc ça nous permet d'avoir une alerte précoce là où il y a un feu, à des endroits où il n'y a personne qui habite, et qui permet éventuellement d'alerter des systèmes qui vont surveiller l'étendue de ces incendies. Et le monoxyde de carbone, vous savez, ça n'a pas d'odeur, c'est le problème qu'on a souvent dans les maisons avec quand les brûleurs fonctionnent mal. Et donc c'est vraiment un poison à haute dose. Et comment on le surveille ? Eh bien, on analyse simplement ce qu'on appelle les absorptions de raies qui sont présentes ici dans le signal. Et donc, on a 1 200 000 observations par jour de ce monoxyde de carbone partout autour de la Terre. Donc, l'instrument, il fait 14 fois le tour de la Terre par jour. On en a deux. Donc, on a 2 fois 1 200 000 observations par jour qu'on va traiter. On a des tas de codes informatiques qui traitent ça automatiquement. Et donc la carte que je vais vous montrer, vous allez la regarder en 30 secondes, et nous, ça nous met des mois de travail de générer une carte comme ça, parce qu'en fait, il faut avoir tous les outils. Et donc vous voyez ici les mois qui défilent, et on va voir, ça c'est la concentration en monoxyde de carbone tout autour de la Terre. Alors je vais prendre mon temps pour expliquer, parce que de toute façon, ça boucle et ça va recommencer. En hiver, il y a plus de monoxyde de carbone parce qu'il est assez peu détruit dans l'atmosphère. Il va rester 2-3 mois. Et donc, vous voyez la Chine, par exemple, qui est un grand émetteur de monoxyde de carbone. Eh bien, voilà, typiquement, on a un transport de pollution qui va se produire et qui va atteindre les côtes des États-Unis. On voit des feux récurrents en Amazonie et en Afrique. Et en Afrique, ils bougent en fonction des saisons, saisons sèches et saisons des pluies. Et ça, c'est typiquement parce qu'il y a le défrichage des restes de récolte qui est fait, et c'est la manière, on va dire, la moins chère et la plus rapide de défricher. Ça induit une pollution de l'air qui est très impressionnante, en fait, et donc en Afrique, c'est essentiellement, la pollution en particules vient essentiellement de ce brûlage de la biomasse liée aux pratiques d'agriculture. En Amazonie, ça peut être soit ça, soit des feux. Enfin, là aussi, il y a eu une série de feux incontrôlés qui se sont produits cette année, par exemple. Mais ça peut être de la déforestation massive aussi, comme on voit souvent en Amazonie. Ça fluctue en fonction des saisons. Pourquoi ? Parce que le monoxyde de carbone, il est détruit par OH, qui est le radical en fait, qui permet de détruire la plupart des polluants dans l'atmosphère. Mais pour créer ce OH, il faut du soleil. Et donc, plus il y a de soleil, moins le monoxyde de carbone reste longtemps dans l'atmosphère. Et donc, on voit qu'en été, les concentrations au global baissent. Mais vous voyez que dans nos pays, par exemple, la seule manière d'avoir du monoxyde de carbone au niveau élevé, c'est soit la pollution qui vient de Chine et qui fait tout un fond de pollution dans l'hémisphère nord, soit quand il y a des grands feux, je vais vous illustrer ça tout de suite, quand il y a des grands feux au Canada ou sur la côte ouest des États-Unis, on peut voir arriver cette pollution jusqu'à chez nous. Alors, comme elle reste entre 1 et 3 mois dans l'atmosphère, contrairement aux gaz à effet de serre dont vous parle beaucoup mon collègue François-Marie, 1 à 3 mois, ça ne suffit pas pour passer la barrière de l'équateur, et donc la pollution en monoxyde de carbone qui est émise dans l'hémisphère sud reste au sud, celle qui est émise dans l'hémisphère nord reste au nord. C'est déjà ça. Alors, donc, si on regarde ce qui se passe en Australie, parce que ça, c'est l'hémisphère type, typiquement, Eh bien, là, on a eu des grands, grands feux à la fin de l'année 2019 et au début de l'année 2020. Et donc, je vous illustre ici, c'est la Terre vue du dessous, vue de l'Antarctique. Et donc, on voit ces panaches de fumée qui vont circuler. Et donc, ça, c'est 3 jours plus tard. Et on voit que le panache de fumée, quelques jours après, donc ça a pris à peu près 2 semaines, fait carrément le tour de l'Antarctique et le tour de l'hémisphère et revient plus ou moins porté à sa source, donc porté par les vents dominants. Et donc ça, c'est la surveillance par le satellite dont je viens, que vous avez vu dans le petit film. C'est la surveillance que montre Yazi. Et donc, on a une carte par jour, on accumule les cartes. Parfois, en fait, ça marche mieux de faire des moyennes sur 2-3 jours. C'est ce qu'on fait parce que quand il y a des nuages, en fait, le satellite ne voit pas à travers les nuages. Mais les nuages, ça bouge, donc on attend 2-3 jours. Et après, on a des belles illustrations comme celle-ci. Alors, c'est intéressant parce qu'on voit, par exemple, des parties de fumée qui touchent les côtes antarctiques. Un peu après, il y a des collègues qui sont allés faire des mesures et effectivement, on trouve des particules de suie aux endroits où on a vu les panaches de fumée se déplacer. Alors, une autre illustration, vous vous souviendrez qu'il y avait des feux très intenses au Canada l'année passée. Ceux-là, dans l'hémisphère nord, je pense que c'est les feux les plus intenses qu'on ait vus. Ici, sur la petite animation, vous voyez en fait ces feux qui se déplacent, qui sont portés par les vents et qui vont passer au-dessus de l'océan et arriver jusqu'en Europe. Et donc, typiquement, à l'université à Jussieu, on a des instruments qui mesurent les polluants qui sont basés sur le toit de Jussieu. Et donc là, les jours où on voit le panache de fumée qui est transporté, on voit des augmentations anormales de monoxyde de carbone. Et si on n'avait que ces mesures-là, que des mesures locales, on ne comprendrait pas nécessairement d'où viennent ces augmentations. Ici, grâce aux images satellites, on comprend très bien que voilà, les panaches sont importants. Et vous voyez que ça se répartit dans tout l'hémisphère nord. Ça défile comme ça, ça dure pendant plusieurs mois, les émissions de monoxyde de carbone très élevées liées à ces feux. Alors, vous avez sûrement vu aussi les photos de pollution locale. Ici, un zoom sur une des journées au mois de juin 2023, où on a New York qui est envahie en fait, par la fumée des feux qui viennent de plusieurs milliers de kilomètres à distance. Alors, ces derniers jours, en fait, dans la presse, vous avez sûrement entendu parler des niveaux de pollution, de nouveaux records en Inde, à New Delhi, mais aussi au Pakistan et au Bangladesh. Et là, c'est typiquement une combinaison de tout ce que je viens de vous montrer, parce que c'est la fin de l'hiver, donc il y a encore les feux, les chauffages, le brûlage pour cuisiner, par exemple. Et s'ajoute à ça le fait que les pratiques de culture, là, de défrichage des champs pour collecter, après la collecte du riz, ils veulent que les champs soient prêts le plus vite possible pour pouvoir planter le blé. Et donc, ces collectes font qu'ils mettent le feu aux résidus. Et donc, on a, la météo fait cette année qu'il n'y a pas beaucoup de vent. Et donc, la pollution reste calée au-dessus des villes à quelques centaines ou quelques milliers de kilomètres de là. Donc là, les écoles sont fermées, etc. Donc, c'est vraiment une pollution majeure. Une pollution comme ça, on n'a jamais chez nous. Mais là, c'est récurrent. Et chaque année, moi, j'ai une étudiante qui fait cette thèse là-dessus. Chaque année, à cette période de l'année, pendant un mois ou deux, c'est la qualité de l'air est comme sur l'image qui est là, quoi. Alors, chaque fois que je passe à un autre exemple, je mets une petite image rigolote, comme ça vous comprenez que c'est chaque fois des petits chapitres différents. Donc, je suis belge, hein, donc c'est pour ça que l'image me parle beaucoup. Je vais maintenant parler du NO2. Alors, le NO2, ici, c'est les images que je vais vous montrer ne viennent pas du même satellite, mais peu importe. NO2, c'est vraiment le traceur de la pollution automobile. Et donc, on voit ici, dans cette belle image, on voit que tous les axes routiers importants, autour des axes routiers importants, il y a des concentrations NO2 importantes qui sont mesurées. Alors, comme tout le monde, en fait, on a été coincé quand il y avait les épisodes de confinement du Covid. Et une des premières choses qu'on s'est vite dites, c'est qu'on s'est dit, oh là là, mais on a l'occasion d'avoir une expérience qu'on ne pourrait jamais faire, c'est-à-dire on enlève le trafic automobile de Paris et des autres grandes villes. Et vous voyez ici les mesures d'un satellite qui s'appelle Tropomy et qui permet de surveiller ces concentrations de NO2. Vous voyez, en fait, c'est beaucoup de NO2 dans les endroits qui sont très urbanisés ou bien là où il y a des industries importantes ou les deux combinés. Et on voit par exemple typiquement Paris, la plaine du Pau, etc. Et la même chose, les mêmes cartes, à la même période de l'année, c'est important de prendre vraiment les mêmes périodes parce que les niveaux de pollution, c'est vraiment saisonnier. Si on compare pendant le confinement, eh bien on voit qu'on a une diminution qui atteint en général presque 50% dans la plupart des capitales, là où on avait des confinements. Et donc, bah, eux, c'était les premiers à sortir la carte, mais on a tous les gens qui travaillaient sur les satellites, on a plongé sur nos données, on a regardé la même période les années précédentes pour essayer de voir les impacts. Alors, toujours sur la NO2, mais je vais montrer que ce qu'on arrive à faire par satellite, c'est quand même impressionnant. On peut regarder les bateaux aussi. Et donc, vous avez ici, sur cette carte, une idée du transport maritime, de toutes les routes qui sont utilisées de manière routinière par les bateaux. Et donc, je vais faire un petit zoom sur une région, notamment le canal, dans la mer Rouge. Vous savez qu'il y a, un problème lié justement au fait que, à la situation internationale qui fait qu'il y a des rebelles houthis qui sont alliés de l'Iran et liés au Yémen, qui en fait menacent le trafic des bateaux dans cette région-là. Et donc, ce qui se passe, c'est que les bateaux, au lieu de passer par la mer Rouge, là, vont faire tout le tour par l'Afrique et choisir une autre route. Et ça, on peut le voir par satellite aussi, c'est ça que je vais vous montrer. Donc, à la suite des attaques, en fait, ça a des impacts sur l'industrie. Et donc, ici, sur l'illustration, par exemple, il y a 3 jours d'arrêt sur une usine qui fabrique des voitures. Et bien, pourquoi ? Parce que les matériaux n'arrivaient plus, ne parvenaient plus à transiter par la route habituelle. Alors, comment est-ce qu'on peut visualiser ça par satellite ? Ça, c'est une carte ordinaire, une carte de concentration de NO2. Et donc, si on veut mettre en lumière certains phénomènes qui sont présents, mais de manière beaucoup plus ténue que le trafic, là, on voit surtout, en fait, le trafic automobile, on va changer l'échelle de couleur, on va saturer un peu l'échelle de couleur. Bon, là, on voit plus grand-chose parce qu'on a tout saturé. Et donc, ce qui nous intéresse ici, c'est les mers, c'est pas les terres. Donc, je vais masquer les mers. Et donc, là, on commence à voir bien le trafic des bateaux. Et donc, ça, c'est ce qu'on voit par satellite. Et on va... Donc, on voit déjà à l'œil nu, en fait, certaines routes de bateaux, ici. Et ici, on va zoomer sur certaines régions et là aussi prendre les mêmes périodes, mais l'année précédente, pour essayer de voir si on voit l'impact, justement, du fait que le canal ici, en mer Rouge, est beaucoup moins utilisé par le trafic de bateaux et dans quelle mesure les bateaux font le tour et est-ce que ça se voit. Donc là, il faut avoir de bons yeux, mais je vais aider un peu en faisant clic-clac-clic-clac avec mes images. Et donc, on va comparer cette image-là à celle-là, mais vous allez voir que ça va mieux si je fais comme ça, en fait. Et donc, ça, typiquement, c'est ce canal de Suez en 2024. Et ça, l'année précédente... Non, 2024, c'est maintenant. On voit que on a... Oh là là, j'ai changé les 2 années. Donc, on voit qu'on a un impact. En fait, on a moins de circulation dans ce canal. Et on va regarder ici... On a aussi moins de circulation, voilà, ça c'est l'année précédente, ça c'est l'année où on voit qu'il y a moins de bateaux qui passent en Méditerranée. Et où vont-ils ces bateaux ? Eh bien, ils font le tour de l'Afrique. Et là aussi, si on regarde le long des endroits où je vous aide un peu, j'ai mis des flèches, enfin des barres blanches. Et donc là, on a le trafic des bateaux qui augmente. Je vais faire comme ça. Le long de la zone, on voit qu'on a vraiment les petites lignes que vous voyez là, c'est vraiment le trafic des bateaux qui a augmenté le long de cet axe-là. Donc, ils sont obligés de faire tout le tour pour aller chercher les matériaux en Chine et les ramener jusqu'en Europe. Ok, je passe à mon exemple suivant. Donc, je vous ai parlé du SO2 qui est lié à la combustion de fuel fossiles, mais en particulier du charbon. Et donc, ici, pour faire cette carte-là, on a accumulé 10 ans de données satellites. Donc, c'est très difficile à mesurer avec le satellite, mais si on accumule 10 ans, donc le signal est tout petit, mais quand on accumule un signal tout petit sur 10 ans, ben, on parvient à limiter très fort le bruit qui vient polluer nos observations. Et donc, on a un signal fort qui vient essentiellement de la Chine et qui va, dans une certaine mesure, pouvoir être transporté aussi et qui, au fur et à mesure, en fait, qu'il est transporté, va réagir avec les pluies, le vent, etc. Vous voyez différentes régions du monde où il y a des hotspots importants aussi, et ça, c'est lié à des grands complexes industriels qui vont émettre beaucoup de SO2. Je vais vous en illustrer, je vais mettre une photo sur celui-là. Ça, c'est Norilsk, qui est en Russie, et c'est une des villes les plus polluées du monde. C'est une ville où on extrait beaucoup de différents composés, nickel, cadmium, etc. Et donc voilà, ça ressemble à ça. Et c'est, voilà, on voit ça. Si je regarde une carte un jour, on ne voit rien du tout. Mais si on accumule sur 10 ans, on voit ressortir des villes où il y a des problèmes de pollution importants, typiquement celle-ci, en fait. Alors, une autre. Pourquoi justement le SO2, quel impact ça a? Je vous ai parlé de l'impact sur la santé, hein, qui est lié aux particules, mais lié au fait que le SO2 va finir par se dégrader en particules, mais aussi des impacts sur la faune et la flore. Et je suis sûre que vous avez tous entendu parler des pluies acides, qui était un des gros problèmes identifiés, ben, notamment en Allemagne ou dans les pays de l'Est. Ici, la photo, c'est en République tchèque. Actuellement, la photo est assez récente, mais c'est un problème, on va dire, qu'on a beaucoup moins que ce qu'on avait dans les années 70 ou 80, parce que justement on a beaucoup moins de SO2, de dioxyde de soufre, que ce qu'on avait à cette époque-là. Et donc c'est pas que le problème des pluies acides est résolu, c'est que on a la source de ce problème qui est beaucoup moins présente, en tout cas en Europe. Tiens, j'ai oublié ma petite image de transition. Donc, ce que je voulais vous montrer après, c'est l'ammoniac. Et donc, ça, c'était, on va dire qu'on a eu un peu de chance sur ce coup-là, parce que c'est un composé qu'on ne pensait pas pouvoir mesurer depuis l'espace. Et si je reprends l'observation par satellite que j'ai décrit tout à l'heure, donc ça, c'est vraiment une mesure, on appelle ça un spectre, c'est une mesure par spectroscopie de différents composés. La chance qu'on a, c'est que l'ammoniac, il absorbe dans une région où presque rien d'autre n'absorbe. Donc, typiquement, je vous décris ici un peu comment on mesure ce qu'on appelle la ligne de base, qui est la ligne que vous voyez passer ici. Ça donne une indication sur la température. Et donc, quand vous voyez les prévisions météo de température, eh bien, elles utilisent notamment les observations de la mission IASI. Ici, l'observation, c'est à peu près 280 degrés Kelvin, parce que nous, on parle en degrés Kelvin. Et alors, l'ammoniac, il absorbe, on a de la chance qu'il absorbe dans une région où pas grand-chose, à part l'ozone, absorbe, c'est-à-dire toute la région ici. Il y a des tout petits traits très très fines d'ammoniac qu'on voit même pas. En fait, ici, vous dites « Ah oui, elles sont là ». Mais non, en fait, ça, c'est de l'eau. Le code couleur vous montre que c'est de l'eau. Elles sont tellement petites qu'en fait, on ne les voit pas à l'œil nu. Mais l'intérêt d'avoir beaucoup, beaucoup de données satellites, c'est quand on accumule dans le temps, on finit par avoir de moins en moins de bruit et parvenir à faire sortir des signaux qui sont quand même très faibles. Alors, je vous montre un exemple sur un petit zoom ici. Je vais zoomer sur la région. Donc ça, c'est toujours ma structure associée à l'ozone. Et ici, ce que vous voyez en rouge, en fait, ce sont des raies associées à l'ammoniac. Alors, elles sont à l'envers pour des raisons que je ne vous décris pas, mais c'est lié à la température, les conditions météo. Mais quand on a trouvé ça, au début, on s'est dit, on a trouvé des spectres qui portaient cette signature. On s'est dit, tiens, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est cette molécule? Et là, on a des bases de données. On va voir, on a fait des cartes comme celle-là. On était un peu surpris parce que d'habitude, dès qu'on voit des polluants, ben, c'est lié, c'est dans les endroits où il y a beaucoup enfin, autour des villes ou des zones urbaines. Ici, vous retrouvez la vallée du Pô où il y a plein de sortes de polluants qu'on trouve toujours. On trouve les Pays-Bas, on ne trouve pas Paris, par exemple. Les grandes villes ne ressortent pas. Donc, au début, on comprenait pas ce que c'était. On est allé voir dans les bases de données, les mesures en laboratoire, quels étaient les gaz qui absorbaient à cet endroit-là. Et on a trouvé que c'était l'ammoniac. Donc nous, on ne connaissait rien à l'ammoniac, donc on est allé voir. Et en fait, c'est vraiment lié à l'agriculture, donc épandage d'engrais ou élevage de bétail intensif. Et là, vous retrouvez en fait différents engendrés. Par exemple, les Pays-Bas, avec leur culture. Vous savez que les Pays-Bas, ils sont une activité tertiaire très liée à la culture. Et donc, les tulipes et tout ce que vous voulez. Et donc différents endroits aussi, ici vous avez la vallée du Nil, très fertile avec beaucoup d'agriculture, etc. Et donc nous, ça a été une énorme chance parce que c'est vraiment c'est la découverte du fait qu'on pouvait mesurer cette molécule depuis l'espace. On a fait toutes les publications qui allaient bien, etc. Et on peut vraiment surveiller maintenant quelles sont les sources d'ammoniac. Et avant, c'était très mal connu. C'est difficile à mesurer par des moyens conventionnels au sol. Donc c'était vraiment un polluant, donc on ne connaissait pas grand-chose. Alors ici, il y a une petite animation qui vous montre, en fait, par exemple, ça c'est une usine de production d'engrais, les engrais sont stockés dans des sacs. Après, on épand ces engrais sur les cultures, quand elles poussent, en fait, elles poussent plus vite grâce aux engrais, justement. Et plus tard, quand on va récolter les cultures pour nourrir le bétail, par exemple, eh bien, l'ammoniac va se retrouver dans les estomacs des ruminants. Et dans les déjections des ruminants, donc typiquement dans le purin, par exemple, on va retrouver des émissions d'ammoniac qui sont liées à ça. Et l'ammoniac, comme je vous dis, ça se transforme en particules et ça va se retrouver dans l'air et dans l'eau. Et donc, quand vous avez beaucoup d'algues, type la Bretagne, par exemple, etc., c'est lié au fait qu'il y a de l'ammoniac qui est transporté par les rivières et qui va se retrouver là-bas, par exemple. Et donc, les émissions, comme je disais en introduction, quand il y a des épisodes de pollution importants au-dessus de Paris vers le mois d'avril, ben, c'est lié au fait qu'en mars, il y a les bandages d'ammoniac pour favoriser justement le fait que les cultures poussent. Alors, je vous illustre aussi le fait ici de pouvoir moyenner dans le temps comment ça améliore le signal. Vous avez ici une journée d'observation par l'instrument, le satellite sur lequel je travaille qui s'appelle Yazi. Ici, une semaine d'observation et puis un mois d'observation, un an d'observation, 10 ans d'observation. Et donc là, c'est une image, on touche à rien, sauf on moyenne les données, on les accumule. Et vous voyez tout le trajet d'une île ici qu'on voit dans le détail avec toutes les cultures qui sont faites aux alentours. Tout ce que vous voyez, tout ce qui est jaune là, c'est partout où on met de l'engrais, etc. et de l'élevage vraiment intensif. On a fait ça, alors quand je dis on, ben, il y a vraiment toute une équipe qui travaille là-dessus. Et on a fait ça, il y a un gars qui a passé un an de son postdoc à faire ça pour toutes les sources autour de la Terre. Et donc on a maintenant un inventaire détaillé d'à peu près 400 sources d'ammoniac. Avec, vous voyez, ici vous avez le zoom, l'Asie, il y a des endroits où c'est tellement... Ça c'est la... toute la vallée du Gange, là, pas du Gange, toute la vallée du Gange, pardon, avec, là, on ne parvient même plus à distinguer les sources tellement elles se mélangent et elles s'accumulent, il y en a tellement là. D'autres zooms, ici, la vallée du Pô, qu'on retrouve ici, aux États-Unis, c'est beaucoup l'élevage intensif, notamment des bovins. Et donc, je vais vous faire un zoom sur deux endroits. Je vais faire un zoom sur un petit point. Alors, je crois que c'est celui-là qu'on a choisi. Ici, quelque part, à la frontière entre le Colorado et le Wyoming. Et je vais faire un zoom sur un des petits points ici en Asie. Et vous allez voir qu'on parvient... Alors, ça, on sait de Google Earth, etc. Et on parvient vraiment à regarder toutes ces sources, à quoi c'est lié. Bon, nous, on voit la carte satellite qui vous montre les concentrations d'ammoniac élevées. Et on doit essayer d'associer ça à une source d'émission. Et donc, je vous dis, le gars a fait ça et ça lui a pris un an d'associer les sources. Et donc là, je vais vous illustrer l'élevage intensif. Et donc là, on est quelque part au milieu des États-Unis. Et on zoome, et on s'aperçoit qu'en fait, ce sont des milliers de vaches, donc les élevages intensifs de bétail, comme il y a beaucoup dans ces régions-là. Mon petit zoom, la même chose ici, je suis quelque part en Ouzbékistan et je vais zoomer et vous allez voir qu'on change l'échelle de couleur sinon on ne voit plus rien, on zoome Google Earth en dessous et qu'est-ce qu'il y a en dessous? Une usine de fertilisants. On fait ça sur les 400 sources importantes dont certaines qu'on ne parvient pas à distinguer et chaque fois on identifie qu'est-ce qui se passe, soit de l'élevage intensif, soit la présence d'industries pour fabriquer des engrais. Partout où on identifie, il y a une source qu'on ne comprend pas. En fait, on a beau chercher, on ne trouve pas ce qu'il y a en dessous. Elle est quelque part ici, en Tanzanie. Alors, comme on fait de la recherche, on aime bien, en fait, quand il y a quelque chose qui nous résiste et qu'on cherche. Donc voilà, ça, c'est un zoom de la source. Pas très intense par rapport aux autres, mais quand même. On observe qu'il y a une certaine saisonnalité, quand même, dans cette source-là. Et on creuse, et on finit par comprendre que, voilà, ce sont des flamants roses qui viennent, et ce sont les déjections des flamants roses qui viennent, en fait, là, massivement. Et on a mis plusieurs années à comprendre, en fait. Donc cette carte, elle est en ligne. Si jamais vous avez envie d'aller voir vous-même ce qui se passe en dessous, c'est possible. En fait, il suffit de zoomer sur les sources et le lien là. Si vous tapez juste NH3 Yazi, vous allez tomber tout de suite dessus. Mon dernier exemple, c'est un petit mystère. Ça, évidemment, c'est le plus chouette quand il y a des choses qu'on ne comprend pas et qui nous résistent pendant longtemps. Celle-là, elle nous a résisté pendant longtemps. Donc, en fait, c'est la première conférence que je fais qui s'appelle « Petit mystère ». Longtemps non résolu, parce qu'avant, c'était petit mystère non résolu. Et donc maintenant, j'ai la solution. Donc vous êtes les premiers à l'entendre. Il y a une des molécules qu'on surveille, c'est C2H4, l'éthylène, qui est lié beaucoup aux industries. Donc on voit des sources très faibles, hein. C'est encore plus faible que l'ammoniac. Mais comme on a développé des tas d'outils, qu'on s'est entraîné à détecter des signaux très faibles, qu'on a des tas de... En fait, je n'ai pas du tout décrit ça, mais les codes informatiques qu'on utilise sont vraiment très pointus. Ça demande des boulots d'équipe d'ingénieurs pour mettre ça au point. Et donc, on parvient à distinguer du bruit de fond des signaux vraiment très, très faibles. Ici, vous avez des illustrations d'endroits où il y a... c'est dans le golfe Persique, où il y a des industries au-dessus desquelles on va mesurer des concentrations élevées de C2H4. OK, ça, on maîtrise assez bien. On écrit nos publications, etc. On essaie de regarder, maintenant qu'on a une longue série de plus de 17 ans de données, on essaie de regarder, ça c'est pour le deuxième satellite, donc ça commence en 2013 jusqu'à actuellement. On regarde partout où il y a des pics de C2H4 et on essaie de comprendre d'où ça vient. Alors, ben on sait que les feux, par exemple, ça émet à peu près toutes les molécules qui comportent des C, des H, dans les feux, vous les retrouvez. Donc les feux... À tous les coups, vous allez trouver du C2H4. Donc, on retrouve tous les grands feux et on les identifie un à un, Australie, blablabla. Ça, c'est ceux que je vous ai montrés, ils sont ici, par exemple. Les feux australiens, ils sont là. les feux, voilà, les États-Unis, Canada, tous les grands feux qu'on voit passer, on les retrouve là. Et quand on regarde cette, donc partout autour du monde, et quand on regarde cette carte de manière un peu précise, il y a des endroits pour lesquels on ne trouve pas de justification. Donc mes lignes rouges, là, avec les pointillés, ces endroits, on ne comprend pas pourquoi il y a des pics de ces deux H4. Bon, après, on a un truc automatique, en fait, qui surveille partout autour du globe. Donc, on peut dire, ah, mais c'est où, en fait, qu'on les trouve? Et on les trouve toujours au même endroit. On les trouve, c'est près de la frontière Iran-Irak, en fait. On les trouve toujours là. Le problème, c'est... Donc, alors, on se dit, on va faire notre truc Google Earth, on va aller voir qu'est-ce qu'il y a en dessous. Le problème, c'est qu'ils ne sont jamais deux fois au même endroit. Il n'y a jamais les petits points, là, ce qu'on appelle les pixels, c'est ce qu'on voit. Mais ça, en fait, ça bouge. C'est dans la même zone, mais ici, il y en a un autre. Et ça bouge autour de cet endroit-là, mais jamais deux fois au même endroit. Donc, quand on zoome Google Earth, on ne trouve pas la raison. Donc, ce truc, je vous jure que c'est vrai, hein, ce truc, depuis 5 ans, nous travaille. Et tous les X temps, on ressort ça en se disant, aux conférences, on dit, dites-nous si vous avez une idée, etc. À force de dire ça, alors les gens me disent toujours, peut-être des armes ou des trucs. Mais à force de dire ça, il y en a un de nous qui est plus brillant que les autres, et ce n'est pas moi. Il y en a un qui se dit, c'est forcément lié aux industries d'une manière ou d'une autre. Et il voit qu'il y a un oléoduc qui transporte en fait le C2H4. C'est très difficile à trouver sur Internet, mais il finit par le trouver. Qui transporte tout le long ici en Iran, tout le long de cette région-là qui fait à peu près 2000 km, qui transporte le C2H4 et qui alimente en fait les différentes industries. Que elles, par contre, ces industries-là, on les avait déjà bien identifiées avec nos satellites, tous ces endroits-là, mais on n'avait jamais pensé au transport de ce gaz. C'est un pipeline, quoi, en fait. Et donc, ce que ça montre, c'est qu'il y a un problème, ils ont un problème de fuite, en fait, de fuite récurrente. Et donc, là aussi, c'est difficile d'essayer d'identifier. Donc, là, on est en train, pour l'instant, de creuser, d'essayer de voir s'il y a eu des incendies ou des attaques. En fait, on trouve des tas de traces d'attaques, d'explosions de ce pipeline, etc. Et on est en train d'essayer d'associer ça à nos mesures. Alors, je vous montre les mesures, ça colle super bien. En fait, le pipeline est représenté ici en vert et les différents canaux de distribution aux industries sont représentés là. Et on voit, par exemple, typiquement, ici, jaune, ça veut dire concentration plus importante, mauve, ça veut dire c'est porté par les vents. Et on voit que, en fonction des passages du satellite, eh bien, on a des endroits, en fait, où le pipeline émet, enfin, je crois que c'est transporté à très, très basse pression, donc dès qu'il y a une fuite ou un problème, ça sort en masse. Mais quand je vous dis en masse, c'est la concentration des gaz, c'est un truc de malade, hein. C'est vraiment des niveaux de pollution qu'on ne s'imagine pas, je pense. Parce que pour qu'on puisse le voir avec les satellites, ça veut dire que c'est vraiment des concentrations qui sont absolument stupéfiantes. Voilà, alors juste pour terminer, en fait, j'ai fait une chouette boucle avec le séminaire, ce que François-Marie vous a raconté. Parce que j'ai juste encore 3 slides pour terminer après mes conclusions. Juste avant, je commence par conclure de manière générale. Donc la pollution, ça reste un problème de santé, même si on connaît de mieux en mieux les impacts sur la santé, justement, on surveille de plus en plus. Donc dans les pays industrialisés, on a des bons réseaux de mesure au sol. La plupart des prévisions de déplacement des polluants, etc., sont faites avec les mesures au sol. On complète ça avec des modèles, j'en ai pas du tout parlé. Et maintenant, on a cette surveillance globale par satellite qui permet de surveiller tous les pays. Alors, à beaucoup d'endroits, on a cette pollution qui diminue. J'ai montré pour les particules, pour le NO2, pas partout. Alors, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais comme je vous disais, dans les cartes récentes, ce que vous avez vu, c'est surtout des moyennes. Dans les cartes récentes, on voit apparaître l'Inde de manière très significative. La pollution baisse en Chine et elle monte en Inde. On a l'ozone et l'ammoniaque qui continuent à être des gaz qui sont préoccupants parce qu'on ne parvient pas vraiment à faire diminuer les concentrations. Et je vous ai montré que ça va avoir un impact important. Et la pollution peut voyager, ça je vous ai montré aussi. Alors, en fait, pour faire la boucle avec le cours de François-Marie, la pollution, ça reste plus un problème local, tandis que les gaz à effet de serre, c'est plus un problème global. Mais dans la conclusion qu'il a montrée aujourd'hui, il a montré, par exemple, que le fait qu'il y ait des particules à différents endroits, ça limite l'augmentation des températures. Et donc ça, c'est la carte des températures qu'on voit avec l'instrument IASI, si on fait une moyenne sur 10 ans. Et donc, vous voyez ici, typiquement, en Inde, la température, elle, au lieu d'augmenter, elle diminue. Et elle diminue parce que le taux de particules augmente. Et en Chine, c'est le contraire. En fait, dans tous les pays industrialisés, on a la température qui augmente plus vite. Hein, donc ici, vous avez l'échelle avec c'est des degrés par an. Et elle augmente plus vite par rapport à d'autres régions qui sont plus affectées par la présence de ces particules qui limitent le réchauffement atmosphérique. Voilà ce que je voulais vous raconter. Si j'ai été trop vite, ou si vous avez des questions, vous pourrez aussi m'écrire si vous voulez. Voilà, merci à vous.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.